Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de Allegre FM 93.1. À ma gauche, Charles Lemoine, superviseur musical, journaliste et photographe. Salut Charles.
Bonjour Thomas.
Et moi-même, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le support physique que dans le dématérialisé. Dans cette émission, nous reviendrons d'abord sur les films ainsi qu'un jeu vidéo qui nous ont touchés ce mois de mars 2025. Puis la pause musicale country nous emmènera du côté de la Louisiane où nous irons nous regrouper dans le Bayou pour écouter de la musique cajun. Puis, en troisième partie d'émission, nous prendrons le temps de revenir sur deux sorties physiques. D'abord, et déjà disponible chez l'atelier d'images, le magnifique Sans Retour de Walter Hill, enfin disponible en 4K. Et dans un deuxième temps, nous reviendrons sur le film de résistance Poncaral, Colonel d'Empire, qui sortira chez Pathé le 23 avril prochain en Blu-ray et DVD. Popcorn et Banjo, la sixième, c'est sur Allegre FM 93.1 et c'est parti.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Alors, déjà, on va revenir un petit peu sur ce mois de mars 2025. Il y a un film qui est d'ores et déjà disponible en VOD et en support physique, mais qui n'est plus accessible en salle, malheureusement. C'est le film Here de Zemeckis. Film intimiste, mais avec une résonance universelle. C'est un film qui parle de l'amour, qui parle de la relation, et la relation, j'ai envie de dire, dans toutes ses directions. À la fois l'amitié, à la fois la famille, l'amour, les rapports de parents, enfants et enfants-parents. Et puis, un peu plus largement, c'est un grand film aussi qui parle du renoncement à ses rêves. Qu'est-ce que ça veut dire de renoncer à ses rêves les plus chers? C'est adapté d'un roman graphique important qui s'appelle donc « Ici » et qui est ou « Here » en anglais, qui est de Richard McGuire. Alors, c'est un film qui est assez épatant, qui est novateur. Hein. Zemeckis continue en fait d'être un réalisateur novateur, inventeur. Le cinéma de Zemeckis, c'est un cinéma qui ne vieillit pas, qui est toujours en avance, qui n'est pas toujours parfait, mais qui est souvent juste, qui touche à des choses assez justes et sensibles. Et puis après tout, qu'est-ce que c'est qu'être parfait, j'ai envie de dire. Voilà, le film est disponible en support physique, il est aussi disponible en VOD, c'est un grand film et c'est important de s'y plonger. Et de lui donner une chance d'exister parce que la sortie en salle a été extrêmement brève et très peu, il y a eu très peu de visibilité.
Franchement, c'est un peu une honte qu'un réel comme Zemeckis soit aussi peu distribué, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé la même chose de toute façon, tu sais, avec le Eastwood aux États-Unis par exemple aussi.
Ou même, jury numéro 2.
Jury numéro 2, mec, il a été distribué dans très peu de salles. Et ça fait un four, je crois. Et je crois que c'est comme le Spielberg, hein, le Fableman. Ouais. Il a été distribué dans très très peu de salles aussi finalement, et donc il a fait 40 millions de recettes, ce qui est pas assez...
Attends, il a pas eu le Golden Globe, Spielberg?
Pour le film, ouais. Je saurais pas te dire là. J'avoue, j'ai pas les Golden Globe en tête. Là.
Ouais, je sais plus.
Mais tu vois, c'est des genres Zemeckis, Eastwood et Spielberg qui aux États-Unis sont pas très bien distribués. Ouais. Jury numéro 2 en France, ça a été Fableman aussi, mais par contre, ouais, Here, moi je voulais absolument le voir, et en fait, il était disponible nulle part.
C'est vrai que moi je... Ah, tu te l'as acheté?
Ah, je me suis pris.
Ah bah,
moi, j'avoue, en fait...
Voilà, on a déjà un premier acheteur en direct.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé la BD, donc... Moi j'ai que lu la BD, du coup. Mais le film, moi je suis hyper... Enfin, je suis étonné que quelqu'un puisse adapter ça, quoi.
Et tu connaissais le Richard McGuire, celui qui a fait la BD? Enfin, le roman graphique?
Je le connaissais avant le film, tu veux dire?
Ouais, avant la sortie de ce roman graphique, c'est quelqu'un que tu connaissais, que tu suivais en...
Ah non, du tout, c'est vraiment juste, c'est le bouche à oreille. Okay. On sait que, enfin, ici en tout cas, était plutôt plébiscité, on va dire, dans le petit monde de la BD.
Crois, il avait pas mal marché.
Ouais, bah, c'est pareil, alors là, je ne saurais pas te dire, je suis pas tant ça avec des festivals, mais en tout cas, c'était une BD, je savais que tout le monde m'en disait du bien, donc je me le suis acheté, et effectivement, je sais pas comment il filme du coup exactement en termes d'esthétique, mais la BD, c'est un objet, c'est expérimental, quoi.
Bah, c'est vachement intéressant, en fait, parce que bah, le principe du film, c'est qu'il y a un seul angle de caméra, hein, la caméra ne bouge pas, et tout est filmé d'un seul angle. Mais en fait, il utilise une technique de... Pour assurer ces transitions, il part de gros plans, en fait. Okay. De quelque chose qui se passe dans le cadre. Et donc, forcément, t'as l'impression que la caméra, elle t'emmène ailleurs, tu vois. Mmh. Et après, il redézoome et tu reviens sur le cadre de base. Voilà, c'est comme une fenêtre, en fait, sur un monde. Et puis, il y a un événement qui se déroule. Et c'est vachement intelligent parce que de cette espèce de limitation d'un seul axe de caméra, en fait, s'ouvre beaucoup de choses. Ouais. C'est comme un calendrier de l'Avent, tu sais.
Ouais, mais il y a un côté comme ça. Ouais. C'est pareil, dans la BD, en fait, t'as des cadres en fait, qui se pop comme voilà, ça, au ça. Fur et à mesure des pages. Et t'as juste écrit la date au-dessus. Ouais. Donc c'est pas 2008, et puis t'as une case à côté qui dit 1924, puis une case à côté qui montre des dinosaures.
Exactement.
Et tu fais genre, ok, bon bah... et puis t'es emmené, quoi.
Ah bah de toute façon, Hill, c'est intéressant, parce que ça part des dinosaures du Crétacé, hein, et ça va jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a aussi en creux toute l'histoire de l'Amérique. Alors évidemment, les dinosaures, ça dure 15 secondes, hein, c'est pas le sujet du film, mais il y a un espèce de ping-pong entre les peuples amérindiens, où là c'est pour le coup beaucoup plus prégnant dans le film, et la famille phare qu'on suit, qui est la famille de Robin Wright et de Tom Hanks, même s'il y en a d'autres. Et c'est vachement bien fait. C'est vachement bien fait. Et d'ailleurs, ils ont utilisé tout un système d'intelligence artificielle pour refaire les visages de Tom Hanks et Robin Wright.
Apparemment, ils sont très bien faits.
C'est étonnant, ouais. Mais en revanche, leur corps, en fait, c'est eux qui bougent.
Ouais, bien sûr.
Et alors ça, j'avoue que tu le sens un tout petit peu. Tu vois, quand Tom Hanks, donc son visage quand il est jeune, c'est le visage de Big qu'il avait dans Big, et c'est extrêmement bien fait. Mais tu vois dans ses mouvements corporels que
il est un peu yav.
Voilà, c'est pas un mec de 18 ans, quoi. Ouais. Mais c'est vachement intéressant. C'est en termes techniques, c'est quand même de l'ordre de la prouesse. Hein.
Okay.
De toute façon, Zemeckis, il est intéressant.
Ouais, il est talentueux.
Deuxième film dont j'aimerais parler, qui sort le 26 mars prochain en salle cette fois-ci, c'est un film qui s'appelle Manas de Mariana Brennand, qui est une réalisatrice qui vient du documentaire, et il s'agit là de son premier film de fiction. C'est 10 ans de travail quand même et de recherche pour aboutir à ce film. C'est vraiment une de mes découvertes de l'année dernière, parce que j'ai eu la chance de le voir en projection presse il y a quelques mois. Et c'était un choc pour moi, un choc esthétique et un choc narratif, hein, et sur l'histoire. Et je sais que ce sera un film important cette année aussi. Donc c'est un film à ne pas manquer, c'est un film qui parle de l'inceste dans les tribus de l'Amazonie. Ça se passe sur l'île de Malajo, au Brésil. Et c'est l'histoire de Marcielle, qui est interprétée par une extraordinaire comédienne qui s'appelle, alors j'espère ne pas trop écorner la prononciation de son nom, Jamily Correa. C'est une jeune femme de 13 ans donc, qui rêve de s'émanciper, hein, comme l'a fait sa grande sœur, mais qui est plongée dans une communauté et dans une famille abusive et violente. C'est un film qui est dur, mais qui est toujours lumineux aussi. Une actrice qui est complètement magnétique devant la caméra de sa réalisatrice. C'est un grand film qui dévoile avec une pudeur un fait visiblement de société, enfin en tout cas quelque chose qui a l'air d'être de l'ordre de l'ordre du fait de société, hein, qui est très important dans ce monde clos et mystérieux de l'Amazonie, où visiblement la violence domestique est assez répandue, notamment dans l'état du Pará, et l'exploitation sexuelle de jeunes femmes aussi. Voilà, c'est parfaitement joué, c'est parfaitement mis en scène, c'est produit par les Dardennes et par Walter Salles, dont tu avais vu le film.
Je suis toujours là.
Que tu avais beaucoup aimé.
Ah ouais, j'adore. Ouais.
Et je peux d'ores et déjà vous dire que ce sera sans doute un des films les plus importants de l'année. Et voilà, allez le voir, 26 mars prochain, Manas.
Bah ouais, bah t'as triché là, t'as vu un film qui n'est pas sorti. Mais... c'est ce que je te dis.
Tu voulais nous parler de Lost Record de Bloom & Rage?
Bloom & Rage, ouais, exactement. Alors,
qui est un jeu vidéo. Hein.
Ouais, alors oui, effectivement, normalement on parle cinéma ici, mais là, bon, c'est un peu triché, mais... c'est pas complètement à côté, puisqu'en fait, on va dire, c'est un film interactif, comme on appelle ça, où en fait, on va pas, il n'y a pas vraiment d'action dans le jeu, c'est vraiment, on va nous raconter une histoire et on va avoir des choix à faire. Et ces choix vont influencer, en fait, les trajectoires des personnages, en bien ou en mal, hein, selon bien sûr les actions qu'on fait. Et donc, c'est l'histoire de Swan, une jeune adolescente dans les années 90, au Canada ou à la frontière, qui, en fait, est une adolescente de 14 ans, très timide, très réservé, qui se sent pas très bien dans sa peau, et qui va rencontrer une bande de filles de son âge, et vont créer des liens, et c'est vraiment le teenage movie par excellence, quoi. Il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire c'est des gamines qui sont pas bien, qui sont un peu weirdo et qui vont s'épanouir en écoutant. Alors donc on est dans les années 90, donc ils vont écouter donc dans le mouvement grunge, donc Nirvana par exemple. Il y a le mouvement Riot Girls, qui est un mouvement féminin du rock punk des années 90, et c'est ce qu'elles vont écouter. Il y a toute une espèce de petit cocon comme ça, très 90s, où c'est des petites gamines qui vont se battre contre des gamins, des petits cons de 18 ans qui ont des motocross et des trucs comme ça. Et en même temps, tout se passe aujourd'hui, en 2022, où en fait, les nanas vont essayer de se retrouver pour se remémorer un peu de leur passé, parce qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre qui se passe. Et c'est vraiment... Il y a un côté Stand By Me, un côté Breakfast Club. Ouais. De toute façon, tu sens que c'est hyper référencé. Hein. Ce jeu vidéo n'invente rien en termes de narration. Par contre, c'est très bien fait. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que dans le gameplay, Swan, le personnage principal, en fait, est très cinéphile et a toujours une caméra DV avec elle. Et en fait, le jeu t'invite à filmer plein de choses. Ça peut être des insectes, ça peut être des grenouilles, ça peut être tes potes, etc. Et en fait, le jeu va faire comme des petits montages où Swan va parler comme ça en voix off, et en fait, ça va te montrer aussi, ça te montre d'une façon un peu fictionnelle, du coup, ce que tu vis en vrai, tu vois, dans le jeu.
Ouais, ouais.
Et c'est hyper... Et moi, ça m'a vraiment touché, ce côté-là, ce côté fait un peu de briquet de broc, avec la musique qui va bien, Enfin, vraiment, ça m'a... Donc, le jeu est en deux parties, la première partie vient de sortir, là.
Mais c'est disponible sur...
C'est disponible un peu sur toutes les plateformes, hein, je crois. En tout cas, moi, j'ai joué sur PS5. Et je crois que c'est disponible sur Xbox, c'est un peu disponible un peu partout. C'est le studio Dontnod qui a fait ça, le même studio qui avait fait Life is Strange, un autre film interactif, on va dire. Et donc j'attends la deuxième partie avec impatience pour voir ce que ça donne, mais j'ai vraiment beaucoup aimé.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Quand tu parles de jeux interactifs, est-ce que... tu sais, on avait fait un jeu sur deux frères deux prisonniers qui devaient s'entraider. C'est quoi c'est un peu similaire.
D'ailleurs le mec a fait un nouveau jeu qui s'appelle Split Fiction. Le jeu c'était, je ne sais plus comment il s'appelle, mais effectivement c'était deux prisonniers qui devaient s'enfuir et c'est un jeu coopératif.
Ouais.
Mais alors c'est presque ça, sauf que là il y avait quand même un peu de gameplay dans ce qu'on avait fait.
Ouais.
Alors que là vraiment le gameplay est quasiment néant, quoi. Ouais. C'est vraiment tout ce que tu fais.
Tu fais des choix.
Ouais, t'avances comme ça très lentement, tu filmes des choses. Il y a des dialogues qui se font et puis basta. Sauf que c'est tellement bien écrit et la relation des personnages sont tellement bien faites que t'es vraiment vraiment pris dedans, quoi.
Ouais,
c'est vraiment tu fais vraiment pas grand chose, hein. C'est vraiment beaucoup moins action que ce qu'on a pu faire.
D'accord.
Mais par contre c'est vraiment en fait le mood est vraiment cool et puis moi j'adore les teenage movies et il y a vraiment tous les codes sont là et il y a des petites pointes de fantastique qui arrivent.
D'accord.
Puisque les meufs en fait essaient de faire une espèce de petit rite machin, enfin c'est très mignon et ouais, j'attends la partie 2 pour voir vraiment la fin. Donc j'en parlerai mois prochain.
Évidemment. Très bien. Et ben il y a un autre film qui est en ce moment en salle aussi dont on voulait parler, hein, sur lequel on voulait revenir. Il s'agit de Black Dog, film chinois de Guan Hu. Bon, film à forte inspiration américaine, mais néanmoins aussi très chinois dans ses paysages, dans son environnement. Moi, j'ai envie d'appeler ça un espèce de néo-western chinois. Décor magnifique, film sur la liberté qui passe notamment par les paysages, hein, le rapport à l'espace. C'est aussi un film sur le deuil, évidemment. Moi, ça m'a fait penser aussi à un conte un peu chaotique. Et évidemment, ça m'a renvoyé un tout petit peu à White God du réalisateur hongrois Cornel Mundrusko, qui était sorti en 2014, qui était assez intéressant aussi. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ce film qui est puissant, hein, Black Dog?
Ouais, c'était une surprise parce que il a gagné un certain regard à Cannes. Voilà, c'est le seul truc de festival que je peux sortir aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais ouais, il a gagné un certain regard. Et en fait, j'avoue, à part ça, je ne savais pas grand-chose du film. Donc je suis arrivé assez vierge en allant dans la séance. Et pour être honnête, dans ma tête, j'ai dit film chinois, ça va être un thriller, quoi. En plus, quand tu lis le synopsis, c'est quelqu'un qui sort de prison, qui revient après 10 ans dans sa petite ville en 2008. Donc il y a les JO de
Pékin
qui arrivent. Et donc en fait, cette petite ville qui est en train de se faire détruire, va se faire ravaler par quelque chose de plus grand. Enfin, il y a tout un truc, et lui, il est paumé après 6 ans de tôle là-dedans, il essaye de... Voilà, et puis il se fait pote avec un chien, quoi. Je me suis vraiment complètement laissé bercer par le film, que je trouve effectivement très, très beau. Il y a quasiment aucun dialogue.
Ouais, c'est très impressionnant.
Le personnage principal ne fait que siffler du film. Mmh. Et c'est vraiment... C'est étonnant comment... En fait, c'est par les interactions, de toute façon, avec les autres qu'on va comprendre aussi sa mentalité. Mais on revient vraiment à un peu du show don't tell, quoi, je trouve, avec ce film. Il y a vraiment... c'est très épuré dans l'écriture. Par contre, chaque plan est signifiant.
Ouais, c'est très riche visuellement.
Ouais, et puis même...
Rien n'est gratuit.
Non, chaque plan est signifiant et chaque rencontre est faite pour te faire comprendre une facette du personnage et une facette de son évolution à travers, enfin, dans tout le film, quoi. Et puis, moi, j'ai adoré aussi, il y a des morceaux des Pink Floyd qui passent comme ça. Et franchement, entre les images et Pink Floyd, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une synchro aussi jolie, quoi.
Ouais, ouais, absolument. C'est vachement intéressant. Et puis aussi, quand même, en parallèle de tout ce que ça dit sur... l'envie d'être libre, l'envie d'être, c'est quand même une grande histoire, bien sûr, aussi sur un solitaire, hein, quelqu'un qui a besoin de traverser ses expériences de vie seule. C'est aussi quand même un film sur un rapport entre un chien et un homme. Et me concernant, j'ai été élevé avec des animaux. Comme ça, vous pouvez le noter aussi. Je donne toujours un peu plus dans chaque émission. Non, et je trouve que le rapport est extrêmement joli. Enfin, il y a des gestes. Je ne sais pas si tu te souviens, mais donc, en fait, c'est l'histoire d'un... En fait, il y a des milliers de chiens qui errent dans un paysage complètement chaotique d'une ville chinoise, comme il n'en existe qu'en Chine, hein, espèce de ville qui serait construite à moitié au milieu du désert, à moitié détruite.
Ouais, ça se passe dans le désert de Gobi, voilà. Théoriquement.
À cause des JO de Pékin, il y a une envie de reconstruire et de tout détruire et pour remoderniser. Et donc, déjà, il faut commencer par nettoyer et par arrêter tous ces chiens errants, quoi. Et il y en a un dont on dit qu'il a la rage, qui est donc le Black Dog. Et en fait, notre héros va se retrouver confronté à ce chien, et puis petit à petit, on va comprendre que non seulement il n'a pas la rage, mais qu'en plus, il y a un rapport très fort de relation et de respect mutuel qui va se développer et se créer. Et je ne sais pas si tu te souviens, il y a des gestes qui, moi, je trouve très touchants.
Quand il pisse contre le mur, que le chien aussi, par exemple.
Déjà, rien que ça.
Le truc de territoire, Edouard.
Mais rien que ça, c'est vachement intéressant, en vrai. C'est vachement intéressant de voir comment il arrive à communiquer avec le chien au départ en juste pissant sur son territoire. Mais aussi, même le premier geste qu'il fait avec le chien, c'est qu'il pose la main. Il met du temps à toucher le chien, et le premier geste qu'il fait, c'est qu'il pose la main sur le front du chien, ce qui déjà lui prend bien 45 secondes, et ensuite il pose sa propre main sur son front, tu vois. Et tout ça, c'est une gestuelle canine qui est juste et intéressante, quoi. Et je trouve que c'est un très joli rapport d'équilibre et de respect aussi entre un animal et un être humain.
Et je pense que c'est aussi, de toute façon, encore une fois, comme le film... c'est pas écrit avec des gros sabots, mais comme
pas du tout.
Comme tout est signifiant, on sent bien que ce rapport-là. Donc encore une fois, c'est quelqu'un qui sort de tôle,
ouais,
qui bien en sûr. Fait est en cage, qui a pris la liberté, et on va avoir ce rapport-là avec le chien qu'on essaye de capturer, qu'on essaye de mettre en cage, on essaye de lui priver sa liberté. C'est quelqu'un qui a la rage, comme lui, il est allé en tôle, donc c'est des images, enfin c'est des
dont on dit qu'il a la rage.
Oui, mais donc c'est des connotations, si tu veux, ouais, négatives, ouais, où ce sont deux êtres qui sont certainement les deux épris de liberté et qui en même temps ne sont pas acceptés dans la société et donc vont se retrouver justement pour créer leur propre sillage, quoi.
Ouais,
donc c'est aussi dans cette relation qui est en même temps, comme tu disais, alors moi j'ai pas eu de chien, mais cette relation qui me paraît très sincère entre les deux, il y a aussi ce truc presque
plus universel, quoi.
Plus universel, et même mais tu sais, le côté même un peu métaphysique, quoi, de la chose, quoi. Il y a un côté quand même, puis tu sens bien avec il y a des choses très psychiques qui arrivent avec les Pink Floyd. Il y a une scène dans un zoo qu'on se taira de divulguer, mais qui est lunaire, quoi. Vraiment, ça devient je trouve qu'il y a vraiment de très belles choses dans ce film, vraiment. Moi, ça a été vraiment un coup de cœur, je pense.
Pour revenir sur ce que tu dis, je trouve vachement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que le Black Dog, on dit qu'il a la rage, mais il ne l'a pas. Et le personnage principal, il a fait 8 ans de prison pour avoir tué un autre jeune Et en fait, on ne sait jamais vraiment s'il l'a tué. Et il y a même une scène où il explique que c'est un accident et que le mec a chuté. Visiblement, il y avait une course en moto. Il se suivait en moto et il y en a un qui aurait chuté d'une colline, d'une falaise.
Il y a un côté un peu le film de James Dean, Rebel Without a Cause, hein, où tu sais, c'est genre le chicken. Sauf que là, c'est près d'une falaise. Et le mec, on l'a pas dit ça parce que c'est pas hyper important dans le film, mais le mec, à la base, il était cascadeur dans un cirque ou quelque chose comme ça. Et donc, on sent qu'il y a un truc, il était plus jeune de 10 ans en arrière et il devait vouloir faire le petit con ou je sais pas quoi. Et effectivement, sans faire esprit ou pas, il a tué un gamin.
Mais donc, c'est aussi, on lui met sur le dos une image d'assassin comme on met sur le Black Dog une image de chien dangereux.
Bien sûr.
Et en fait, on n'est jamais vraiment sûr ni de l'un ni de l'autre, quoi. En tout cas, voilà, c'est un film qui est encore en salle, qui est vraiment excellent, qui dit beaucoup de choses, qui est un film qui est dédié à tous les gens qui font des road trips, qui aiment la route, en plus d'être dédié au père du Réal, et je trouve que c'est très touchant. Et c'est aussi un film avec un espèce de parrainage symbolique de Jia Zhangre, qui est un des très grands réalisateurs chinois, puisqu'il joue dans le film, il est special guest appearance, il joue très bien d'ailleurs, tout le monde joue très bien. Donc voilà, film à découvrir au plus vite.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Je dois faire directement mon mea culpa, parce qu'en fait, ça s'appelle Popcorn et Banjo et on passe que de la musique country. Et là, en fait, aujourd'hui, on ne va pas passer de la country. Alors, parce qu'avec Thomas, on s'est dit que ça serait sympa de passer Parlez-nous à boire, donc un titre des Balfa Brothers, qu'on retrouve dans le film Sans Retour, dont on va parler juste après. Et vraiment, je me suis dit, bah, nickel, on a déjà trouvé le titre pour l'épisode, quoi. Et puis, en réécoutant vraiment Chez moi tranquille, je me suis dit, mais attends, je crois que c'est pas de la country, en fait. Et là, je me retrouve vraiment comme un idiot devant mon ordi, et je note un peu les trucs. Je fais, bon, alors, violon, check. Une guitare, check. Un banjo, check. De la musique jouée par des mecs en chemise à carreaux avec un verre pas loin, check. Mais bon, évidemment, tu vois, si la musique country, ça, c'était que ça, ça serait un peu trop facile. Parce que là, en fait, ce qu'on va écouter, c'est ce qu'on appelle de la musique cajun. Et là, Thomas, t'as envie de me poser la question, mais c'est quoi la différence entre la country et le cajun? Eh bien, tu poses une très bonne question, et pour ça, on va remonter un peu dans le temps. En fait, la country et le cajun, ça va pousser sur le même lopin de terre, c'est-à-dire l'Amérique rurale, hein. Donc c'est des musiques de fermiers, loin des grandes villes, sauf que ça vient pas des mêmes coins, et surtout, c'est pas les mêmes gens. La country, donc, c'est plutôt, elle débarque des Appalaches. Donc, les Appalaches, je vous le rappelle, c'est cette région rurale des montagneuses des USA, avec des États comme l'Alabama, Caroline du Sud, Tennessee, Virginie. Et c'est les colons écossais, anglais, irlandais qui ramènent leur ballade folk, qui vont croiser les Afro-Américains, qui jouent, eux, du blues. Ça va fusionner et ça donne la country, le blues du blanc. Et c'est là, on va voir, en tout cas, les premières histoires, c'est des histoires un peu glauques, des histoires de fermiers, des histoires sur la dureté de la vie, des femmes qui trompent, voilà, ce genre de choses. Et c'est un genre, en fait, qui va vraiment émerger en 1920. Et vous allez voir que le Cajun, lui, c'est une autre migration, c'est les Acadiens, donc les francophones de l'est du pays chassés du Canada, qui atterrissent en Louisiane et qui s'accrochent à leur culture. Et là, ils vont garder le violon, ils vont mettre en plus un accordéon, ils chopent l'accordéon, donc des immigrés allemands du coin, et c'est une musique qui va être généralement enjouée. Donc c'est vraiment, c'est un mélange de plein de petites cultures comme ça, et on sent que c'est une musique vraiment heureuse, et on est là pour boire des coups, quoi, tu vois. Et là, la trace de la musique cadienne, ça date des années 1780, donc vraiment bien avant la country. En tout cas, c'est là où on va voir la différence, c'est que la country, elle est quand même un peu dans la dep et chantée en anglais, là où le cajun, ça fait la fête et ça chante en français. Et faut pas oublier qu'au passage, d'ailleurs, cette musique qui vient principalement de Louisiane, donc là on parlait français, le français donc a été interdit entre les années 20 et 60 à l'école pour essayer justement que tout le monde puisse parler anglais. Donc c'est vraiment aussi quelque chose de très traditionnel qu'ils ont voulu à un moment garder, quoi. Mais il n'y a pas que la langue et l'ambiance qui les différencient. Ce qui est marrant, c'est que ces deux styles n'ont pas émergé de la même façon, parce que la country, dès les années 20, elle est enregistrée, diffusée, et ça devient une industrie. Les labels de Nashville vont façonner le son, ça va créer des stars, se standardiser en fait. Et le cajun, lui, ça reste longtemps une musique locale, une musique de bal qui évolue surtout en live. Et pendant des décennies, c'est un truc qu'on joue vraiment entre voisins, dans les fêtes de famille ou des petits bars perdus, quoi. Il faudra vraiment attendre les années 40-50 pour voir des enregistrements vraiment se multiplier. Et même là, ça reste un marché hyper régional, quoi. Alors que la country devient une musique nationale, voire mondiale. Et le cajun, lui, il reste enraciné et attaché à sa terre, quoi. Donc, est-ce que Parlez-nous à boire est un morceau country? Pas du tout. Mais au fond, bah, de toute façon, les deux genres se parlent, et on voit bien que même des grands noms de la country comme Hank Williams a chanté des chansons comme Jambalaya, qui est un titre clairement inspiré des Cajuns. Et bon, on va pas se mentir, les sonorités du bluegrass et du western swing, qui sont des genres aussi de la country, ne sont jamais très loin du Cajun. En tout cas, après ce premier titre, on enchaîne avec Doc Boggs et son titre Country Blues. Et là, c'est du old-time music. C'est toujours pas de la country, mais c'est quand même des cousins assez proches. Donc bref, on explore les racines, et comme vous l'aurez compris, les genres, c'est comme dans le film Sans Retour, faut pas trop se perdre en chemin.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
When I have plenty of money, good people, my friends were all standing around. Just as soon as my pocketbook was empty, not a friend on earth to be found. Last time I seen my little woman, good people, she had a wine glass in her hand. She was drinking down her troubles with a low-down sorry man. Oh, my daddy taught me a penny, good people. My mama, she told me more. That if I didn't quit my rally, we'd have trouble at my door. I wrote my woman a letter, good people. I told her I was in jail. She rolled me back and answered, saying, honey, I'ma come to Goyal Bay. All around this old jailhouse, it ain't any good people. $40 won't pay my fine. Corn whiskey has surrounded my body, poor boy. Pretty women is a troubling my mind. Give me cornbread when I'm hungry, good people. Corn whiskey when I'm dry. Pretty women are standing around me. Sweet heaven when I die. If I'd have listened to my mama, good people, I wouldn't have been here today. But a drinking and a shooting and a gambling, at home I cannot stay. Go dig a hole in the middle, good people, go dig a hole in the ground. Come around all you good people and see this poor rounder go down. When I am dead and buried, my pale face turned to the sun. You can come around and mourn, little woman, and think the way you have done.
Aligre FM 93.1.
Et vous êtes sur Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Alors, on va prendre le temps de s'arrêter sur une sortie 4K très très importante, puisqu'il s'agit du film Sans Retour, disponible à l'atelier d'images. Grand film de Walter Hill. Alors, qui est Walter Hill? Eh bien, c'est le grand cinéaste des années 80. Proche d'un John Ford dans sa personnalité, hein. C'est un réalisateur qui est assez discret. C'est, si on veut un petit peu romancer sa stature, on pourrait dire que c'est un cow-boy qui dit peu de mots. Et d'ailleurs, plus généralement encore, ses scénarii sont écrits presque comme des haïkus. C'est une particularité de Hill, hein, qui l'a rendu connu à Hollywood. Et a fortiori, ses personnages, ils parlent peu. Pourtant, derrière cette discrétion, Walter Hill est une des personnalités du cinéma hollywoodien les plus influentes. Et puis, quand on est influent à Hollywood, de facto, on est influent dans tout le cinéma d'aujourd'hui. Il fait le pont entre la vieille garde, hein, donc les Ford, les Hawks, les Walsh, dont il d'ailleurs dit qu'il aurait aimé faire partie, hein, il aurait aimé, soi-disant, faire partie de cette génération de réalisateurs sous contrat, comme les Henry Hathaway aussi, ce genre de cinéaste. Et donc il fait le pont entre cette vieille garde et entre la nouvelle génération des Tarantino, des Refn, des Wright, qui se reconnaissent directement de son travail. Il a une carrière colossale dans laquelle il tourne presque un film par an, quasiment jusqu'à l'intégralité de sa carrière, en tout cas dans les 10 premières années de sa carrière. Il va tourner Le Bagarreur en 75, Driver en 78 qui influencera directement Drive de Refn, Les Warriors 79, Le Gang des Frères James 80, Sans Retour 81, 48 heures qui est un des plus grands succès des années 80 et de l'histoire du cinéma si on considère les rapports au dollar, etc.
L'inflation.
En 1982, Les Rues de Feu en 84 et ça continue. Cinéaste qui influence toute la pop culture parce qu'il est aussi à l'origine d'Alien, bien entendu, puisqu'il est un peu le père d'Alien, hein. C'est lui qui a écrit la deuxième version d'Alien, qui a fait du personnage principal une femme, qui a donné la dimension, l'ampleur au scénario de Dan O'Bannon, et puis il l'a produit aussi. Il a aussi choisi de ne pas le réaliser. Au départ, c'est lui qui devait s'en occuper. Il y a eu beaucoup de personnes, il y a même Aldrich qui a été attaché au projet. Et puis finalement, ils sont allés choisir avec David Giller, d'ailleurs que je n'ai pas cité, mais c'est vraiment un travail, un partenariat entre Walter Hill et David Giller, toute cette histoire d'Alien. C'est eux qui ont choisi Ridley Scott. Voilà, donc c'est un cinéaste qui est rarement totalement dans l'entertainment, hein. Il arrive toujours à glisser quelque chose de plus dans ses films. Il va parler du rapport aux frontières, du rapport aussi au stoïcisme de ses personnages, hein. Celui qui s'en sort, celui qui a le plus de sang-froid, hein, globalement. Et puis, un des grands aspects du cinéma de Walter Hill, hein, c'est qu'il n'aime pas qu'on sache vraiment d'où viennent ses personnages. Ce sont toujours des héros au passé inconnu et on découvre leur personnalité à travers leurs actions plutôt que leur backstory. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important chez Hill. L'idée qu'il faut montrer plutôt que dire. Toutes ces questions, elles font partie de Sans Retour, qui est donc ce film qui ressort en 4K chez l'atelier d'image et qui raconte l'histoire d'un groupe de la garde nationale, hein, donc ces espèces de réservistes un peu qui, une fois par mois, vont faire leurs exercices militaires, mais un peu sous, enfin voilà, en s'en foutant plus ou moins. Et puis qui va s'amuser à tirer à blanc sur des cajuns qui se retrouvent traqués ensuite dans ce bayou parce qu'ils ont volé un bateau cajun et qui sont tirés à blanc pour rigoler sur les propriétaires du bateau et qui se retrouvent traqués dans une traque à mort avec ses locaux. Charles, tu veux nous parler de ce grand film claustrophobe, oppressant et totalement inspiré dans ces dernières minutes? La parole est à toi.
Bah écoute, Walter Hill, comme tu disais, c'est même, on peut dire, c'est un ami maintenant. Hein. De toute façon, on a pu le rencontrer une ou deux fois, et toi encore plus.
Ouais, on l'a pas mal côtoyé.
Mais c'est, je pense que c'est un de mes films préférés de Hill, Sans Retour, par son esthétique, par ce qu'il raconte. C'est un film que je mets toujours, de toute façon, avec les Warriors. On en parlera peut-être après, mais je trouve qu'il y a vraiment une réponse. Enfin, les films se répondent. Et c'est un film que je trouve très beau, qui se passe dans les bayous de la Louisiane, et c'est un endroit que je trouve magnifique. Et en même temps, il arrive à filmer les bayous, et c'est vraiment les pauvres gars de la garde nationale, ils sont complètement paumés, quoi. Il y a un truc vraiment, comme tu disais, très claustrophobe. Et ce qui rend le film, en fait, tous ces personnages sont tous très différents. Ils ont tous très bien caractérisé.
Énorme, ouais.
Ils ont tous quelque chose de précis. Il y en a un qui est un peu cabotin, l'autre qui est très sérieux, l'autre qui est vraiment complètement con. Il y a le suiveur, il y a celui qui comprend même pas ce qui se passe. Enfin bon, il y a comme ça, en fait, une espèce de... Walter Hill va prendre plein d'archétypes américains, les mettre ensemble, vont les faire se perdre quelque part, et en fait, on va, face à l'adversité, on va voir qui ils sont réellement. Et qu'est-ce qui va, en fait, transparaître de leur personnalité, quoi. C'est là, pour moi, où tu te rends compte que Walter Hill est vraiment un grand scénariste. Il arrive vraiment à faire exister des personnages. Et c'est parce que là, c'est presque un huis clos, je trouve, tu vois. C'est plein de scènes où juste ça dialogue et, en fait, ils vont se bouffer entre eux petit à petit. C'est même, finalement, les cajuns qui les traquent. C'est même pas eux le premier problème, finalement. Ils vont d'abord se bouffer entre eux. Et
vachement intéressant le rapport aux cajuns dont toi tu me parlais, c'est que dans la mise en scène du film, eux ils sont presque inexistants, on les voit presque jamais. C'est extrêmement bien foutu visuellement, et il y a tout ce rapport, tu sais, où les soldats de la garde nationale, ils pataugent dans la boue, on est avec eux, hein. Franchement c'est pénible, hein. Ouais. Moi ça m'épuise, hein. Psychiquement de les voir avec de la boue jusqu'aux genoux, c'est un film oppressant alors que tout est tourné en extérieur, hein, ce qui est quand même assez incroyable aussi. Et en fait les cajuns, on a l'impression qu'ils traversent...
C'est des fantômes, en fait. Il y a un truc presque... ça, je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, ce côté... moi, vraiment, je trouve que dans le film, on en parlait la semaine dernière, je crois, du coup. Pas du tout le mois dernier, mais il y a un côté folk horror que je trouve assez évident dans le film. C'est vraiment... La forêt, elle devient mystique, avec des tueurs invisibles, fantômes. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas pour... Enfin, bon, bien sûr, on a compris que c'était des glands et qu'ils ont tiré à balles blanches sur des gens, donc forcément, les mecs...
soldats de la garde nationale.
Ouais, donc il y a des représailles de la part des cajuns. Mais on verra que ce n'est pas que ça non plus. On verra qu'il y a aussi un truc de territoire. Et c'est là où tu vois que c'est aussi... de toute façon, le peuple... Ça veut dire quelque chose, en tout cas, des États-Unis. Et je trouve que même, tu vois, encore aujourd'hui, honnêtement... ce que ça raconte est assez, je trouve ça assez moderne, hein, où tous les Américains se bouffent entre eux et personne n'arrive à s'entendre. Je trouve ça, la vision de Walter Hill qu'il a des États-Unis à ce moment-là, en tout cas, je ne sais pas s'il a cette vision-là d'ailleurs, mais en tout cas, moi, ce que le film raconte, c'est vraiment ça. Et pour revenir au folk horror, la forêt a une part hyper importante dans ce film, parce qu'elle est, elle est présente à chaque plan. Les mecs, ils savent pas où ils sont, machin. Et t'as vraiment le mystique des Cajuns qui arrive, et c'est mortel, hein. C'est vraiment...
Ça, c'est très bien construit, on ne sait jamais où on est complètement perdu, et c'est hyper prégnant, quoi. Et puis, évidemment, dans le côté folk horror aussi, qui va rebondir dans la dernière partie du film, qui est complètement dingue, où il reste un certain nombre de survivants, on ne va pas spoiler, hein, qui se retrouvent dans une grande fête de village Cajun, dont on imagine que ces Cajuns sont les gentils Cajuns, ils ne ressemblent pas aux Cajuns qui ont traqué notre escouade. Et puis petit à petit, un sentiment de paranoïa aiguë qui va s'installer entre cette grande fête de village et le point de vue des soldats américains qui sont en train de se demander si en fait c'est pas eux qui vont pas se faire flinguer, quoi. Et puis c'est un moment qui est un très 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 grand moment de cinéma américain des années 80. C'est le montage est dingue, la musique est folle, c'est par les noix à boire, c'est monté sur la par les noix à boire qu'on a entendu, et c'est un grand moment de paranoïa et qui en résonance avec toi, tu l'aimes beaucoup, je crois, ce film Midsommar, où tu sais, où il y a une grande fête et en fait, en creux, il se passe deux choses, sans doute.
Surtout, il se passe, et c'est effectivement, comme tu dis, c'est là où il se passe un truc bizarre, effectivement. Parce que le film, en fait, le film, ça reste une. Pour moi, tu me diras le contraire, Thomas, mais pour moi, c'est une très belle série B. Vraiment, film d'action, un peu bourrin, machin. Donc, très bon. Mais effectivement, les 20 dernières minutes, alors là, c'est là où le film devient chef-d'œuvre. Enfin, pour moi, ça devient presque un chef-d'œuvre, quoi.
Ouais, moi, je suis assez d'accord.
Il y a une telle tension, et comme tu dis, la fête du village où tout se passe bien, tout le monde est heureux, et en fait, il y a un truc de travers, et c'est par le regard d'un des personnages qui dit « Attends, je crois que ça va pas. » Et après, on verra. D'ailleurs, quand même, c'est assez beau dans la mise en scène, Walter Hill arrive à montrer après ce qui relève de la paranoïa, et ce qui relève vraiment d'un vrai truc d'agression qui va potentiellement arriver, quoi.
Ouais, de la réalité.
Ouais, exactement. Et donc, t'as la fête avec... Ils sont en train de tuer des cochons, ils sont en train de les pendre, donc ils font des nœuds coulants, enfin...
Ça, c'est vachement bien fait.
C'est un truc très chelou, quoi.
Il monte un premier nœud coulant, puis un deuxième. Alors, évidemment, sous le regard d'un des soldats américains qui se dit bah, c'est pour nous, quoi. Et puis tout d'un coup, on attache les pieds d'un cochon qu'on éventre et qu'on se met à cuisiner. Enfin, tout est construit comme ça dans une montée en puissance qui est franchement dingue.
Et avec la musique qui est hyper sympa, qui est hyper joviale, bah, celle qu'on vient d'écouter, effectivement, où c'est vraiment, t'as envie de taper du pied et tout. Il y a vraiment deux mondes qui se confrontent, quoi.
Et absolument, pour revenir à ce que tu dis par rapport à la série B, il y a quand même une différence dans ce film-là. Alors oui, évidemment, d'abord Walter Hill le dit lui-même hein, tout le temps, je ne fais pas des films à grand budget. Hein, et quand je fais des films à grand budget, une grande partie de ce budget va dans la star du film qui permet, il ne le dit pas du tout de manière amère, hein, au contraire, puisque cette star lui permet de monter son film. Hein, exemple, son film avec Bruce Willis, Dernier Recours, ce genre de film. Mais... c'est une série B d'une certaine manière, mais c'est aussi un peu plus que ça, parce que par exemple dans son rythme on n'est pas dans les codes de la série B avec de l'action et puis encore de l'action et puis toutes les scènes d'action se dissocient les unes des autres par des vraies scènes j'ai envie de dire d'auteur. Après je suis tout à fait aligné avec le fait qu'il y a des grands auteurs de série B, mais c'est un peu plus que ça, parce qu'il y a des scènes d'action, mais qui sont espacées par des grands moments d'un cinéma plus autorisant. Et c'est ça qui est très bizarre. On n'est pas totalement dans un gros film d'action dans la première partie. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a un rythme étonnant, quoi.
Ah, c'est un rythme assez lent, assez posé, mais c'est parce qu'aussi, on sent qu'il a envie de développer ses personnages.
Ouais.
Et chaque séquence, encore une fois, c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup les Cajuns en début, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de dialogues et beaucoup d'errances, en fait, dans les bayous pour, justement, monter un peu en pression tous ces gars qui sont... Donc, la garde nationale, donc c'est pas des soldats, quoi. C'est vraiment
c'est
juste...
plutôt des réservistes.
Oui, c'est ça, des réservistes. Et puis même, il y en a certains qui ont juste pas envie d'être là, quoi. Ils s'en foutent.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
J'allais aussi rebondir sur autre chose que je disais tout à l'heure, c'est que... Je sais pas ce que t'en penses, mais... Moi, je trouve qu'il y a un vrai lien à faire avec les Warriors qu'il a fait du coup en 79, donc quelques années avant, où c'est deux survivals, sauf qu'il y en a un qui se passe à New York, donc le bitume, le béton, les gangs, des gens qui, en fait, théoriquement, se rassemblent pour s'entraider, et là, le Sans Retour, où ce sont plein d'Américains qui se retrouvent, qui n'ont pas envie forcément d'être là, et qui vont se fighter. Et j'ai l'impression que c'est vraiment pile ou face, quoi.
Les deux faces d'une même
pièce. Deux faces d'une même pièce, Thomas.
Bah ouais, et puis c'est intéressant parce que, effectivement, les Warriors, c'est vraiment le groupe pour s'en sortir. Mm. Et en fait, sans retour, on se demande si c'est la seule moyen de s'en sortir, c'est pas juste d'être en solo.
Ouais, complètement. Hein. Et je sais pas exactement ce qu'il a voulu, s'il a vraiment une évolution dans sa mentalité, il. Mais c'est marrant qu'à très peu d'années d'intervalle, il fasse des films qui se ressemblent quand même à ce point. Et qui, en même temps, ont des visions totalement opposées sur le groupe et sur les États-Unis. Et je trouve qu'il y a vraiment cette évolution de pensée. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses.
Mais... Ah ouais, c'est intéressant. Je n'avais pas vu ça comme ça. Je n'avais pas vu cette lecture, mais c'est sûr que c'est intéressant. En tout cas, moi, pour rejoindre un peu ce que tu dis et pour faire la boucle avec ce qu'on se disait juste avant, il y a ce rapport... qui est radicalement différent de les Warriors, c'est l'entraide qui leur amène le salut, et en fait, sans retour, on comprend très vite qu'il faut absolument se détacher de cette escouade, où personne ne va dans la même direction, tout le monde défend des choses très différentes, il y en a qui sont agressifs, il y en a qui sont craintifs, et puis il y en a qui veulent juste s'en sortir à coûte que coûte, quoi. Et c'est intéressant. Pour terminer sur le film, et alors ça, je le dois en partie à ce 4K, la fin extraordinaire, avec encore grand moment de paranoïa. On peut pas vous spoiler la fin, mais la toute fin du film pose des questions.
Vraiment le dernier plan,
ouais,
là,
quatre derniers plans, quoi. Des questions. Je suis pas en train de faire une boucle. Soudainement, je reviens sur la fête cage. Hein. Là, tu te dis peut-être que Thomas a des problèmes. Non, vraiment, les 4-5 derniers plans du film amènent un niveau de lecture énorme sur le film. La paranoïa, sur qu'est-ce que c'est qu'une image, qu'est-ce qu'on nous montre, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on veut voir. Il y a tout un rapport aussi intellectuel à ces questions qui est vraiment très très intéressant et très puissant.
Mais de toute façon, c'est Walter Hill qui en parle dans les bonus, je crois.
Ouais.
Qui...
Ouais, ça, c'est quelque chose qu'ils ont voulu apporter, ouais. Qui n'était pas dans le scénario aussi. Mmh. Ouais,
et absolument. Qui disait vraiment qu'il ne voulait pas une fin, sans spoiler bien entendu, il voulait, on va dire, une fin
hollywoodienne, quoi.
Ouais, voilà.
Il ne voulait pas d'une fin hollywoodienne, happy ending. Ou...
Il voulait quelque chose de plus ouvert, quoi.
Et
du coup, là, les 20 dernières minutes, ouais, énorme claque et cette fin magnifique.
Quelques mots sur un autre film qui est disponible. Alors, c'est un film qui n'est pas encore sorti, mais qui sera disponible le 23 avril prochain en support physique chez Pathé Film. Il s'agit de Poncaral, Colonel d'Empire. Charles, est-ce que tu veux d'abord nous présenter Jean Delannoy ?
Un tout petit peu Jean Delannoy, je vais faire ça rapidement. Donc, Jean Delannoy, c'est un réalisateur et scénariste français. Il réalise son premier film en 1934 et parmi ses œuvres marquantes, il y a L'Éternel Retour en 1943 qui est quand même écrit par Jean Cocteau. La Symphonie Pastorale en 1946 qui remporte la Palme d'Or. Alors il faut savoir, en 1946, la Palme d'Or, en fait, il y a 7 films qui ont eu ça s'appelait le prix du jury et il y a 7 films qui l'ont eu et je me demande s'il n'y a pas eu un Billy Wilder. Bref.
Et en revanche, c'est la première Palme d'Or.
C'est la première, oui, je crois que c'est ça, c'est la première, première Palme d'Or, on va dire, mais bon, avec 7 films qui ont gagné, quoi. Et en tout cas, il va faire aussi un Notre-Dame de Paris en 56 ou encore Maigret tend un piège en 58. Alors son style est souvent qualifié donc de qualité à la française et on sent que c'est un réalisateur, on va dire, très classique. On sent qu'il n'a pas trop survécu aux années 60.
Bah, il a été descendu par la Nouvelle Vague.
Bah, oui, bah, mais qui n'a pas été descendu par la Nouvelle Vague ?
Le cinéma de papa, quoi.
Ouais, ouais. Mais de toute façon, c'est ce qu'on ressent un peu et on va en voir avec le film dont on va parler là, mais c'est quelqu'un, effectivement, qui fait partie, on va dire, des murs du cinéma français. Et donc, le synopsis de Poncaral, donc ça se passe en 1824, et le baron Poncaral est un ancien officier qui est resté fidèle à l'empereur Napoléon. Il va rencontrer Sibylle de Ransac. Celle-ci lui présente sa sœur, l'orgueilleuse Garlonne, et trahi par son amant Hubert de Roson, ça fait beaucoup de noms, qui lui a préféré la riche blanche de Marillac. Garlonne entend bien prendre sa revanche. Bon, dis donc, le synopsis est compliqué. En vrai, c'est le colonel qui reste fidèle à l'Empire et il va se passer des petites amourettes, quoi.
Voilà, c'est exactement ça. Et c'est un film qui est intéressant s'il est vu à travers un regard historique. C'est très très important de comprendre que c'est un film qui est tourné en 1942, enfin qui sort en 1942, donc évidemment période sombre de l'histoire française et de l'histoire du monde, où nous sommes sous occupation nazie, allemande, et donc Poincaral, c'est un personnage qui est contre toute forme d'autorité. Il va évidemment représenter la figure d'un résistant, hein, de la résistance. Voilà, c'est un... En fait, Delannoy, il va tracer la vie d'un personnage qui est sérieux, qui est honnête, qui n'est pas forcément en phase avec notre époque aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, quand on le voit, on se dit que c'est quelqu'un de rigide, de pas sympathique du tout.
C'est même plus que ça.
Ouais, mais... voilà, de caractériel. Ouais. Mais en fait...
Enfin, mais c'est un mec odieux.
Voilà. Mais en réalité, il incarne une droiteur, une rigidité qui est rassurante à l'époque parce qu'il ne trahit jamais sa pensée. Et ça, c'est un marqueur fort de cette époque, des besoins de cette époque et des croyances. De cette époque, voilà, ce film est considéré comme un grand hommage à la résistance et c'est sous cet angle-là qu'il faut le visionner. Film qui sera censuré par l'occupant, hein. Ils vont couper certains dialogues, comme un dialogue qui est dit par Louis-Philippe Ier, je cite: il est temps de sortir la France de ses humiliations, de rendre à son drapeau un peu de gloire. J'ai l'impression de faire un discours à la radio un peu important. Là. et c'est ça qu'il faut garder du film. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Je sais que tu trouves que c'est très bien joué aussi.
C'est ce qu'on s'est dit quand même en regardant le film tous les deux. C'est-à-dire qu'il faut mieux le voir sous un angle historique, parce que ça me paraît aussi... C'est toujours bien de remettre des films dans leur contexte. Mais c'est vrai que quand nous avons... Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai vu le film, j'ai été quand même assez surpris parce que le personnage principal... Ah oui, alors, du coup... Droiture, comme tu disais, de toute façon, tu as très bien remis le contexte, mais moi, en tant que personne moderne de 2025, franchement, le gars, c'est vraiment un con. Hein. On va pas, je sais pas comment le dire autrement, mais le gars, il est chaud, quoi. Vraiment, ce mec est... Alors, il est très droit dans ses bottes, mais alors la vache, il est dur, mais il est dur. Le mec, il fait toujours la gueule. Il est jamais content. À chaque fois qu'on lui parle, il dit « Non, je vais pas venir à votre fête. » Et puis après, il fait « En fait, je viens. » Le mec est toxique à mort. Vraiment, on se dit aujourd'hui, le mec, c'est relation toxique à balle. À balle, à balle, à balle. La relation avec les femmes, horrible. La relation avec les mecs, horrible. Et le mec, il est vraiment pas sympa, quoi. Et on le montre, effectivement. Et donc là, il y a une espèce de dissonance cognitive qui s'installe où t'as l'impression que le réalisateur a voulu montrer quelque chose de noble, élégant, voilà, certes un peu austère, mais en tout cas, il est montré comme un héros.
Quand même, ah ouais, complètement.
Il est vraiment, c'est vraiment le premier degré héros, mais avec le regard moderne que j'ai en tout cas, c'est un personnage qui est pas facile à appréhender.
Ouais.
Mais encore une fois, comme tu disais, tu remets ça dans un contexte historique, qui est le contexte de la Seconde Guerre mondiale, le film prend vraiment une toute autre ampleur, et je pense que si on voit le film avec un regard un peu trop, entre guillemets, moderne, je suis pas sûr qu'on puisse l'apprécier, peut-être à sa juste valeur.
Et par ailleurs, intéressant, parce que c'est quand même un film qui a près de 80 ans, en revanche, ce qui n'est pas toujours le cas à cette époque-là, le rythme, le film passe plutôt très bien, tout seul, extrêmement bien interprété quand même par le trio Pierre Blanchard, Annie Ducot et Suzy Carrier. Et puis bon, très belle lumière, il y a quelques aussi très beaux moments de cinéma. Mais oui, c'est sûr que c'est un film qui est un peu un film funambule aujourd'hui. Soit vous faites le choix de l'aborder en ayant cette conscience historique et de ne le voir qu'à travers ce regard. Et de comprendre qu'il est ancré dans une époque, il est ancré dans une époque aussi visuellement, hein, parce qu'il y a quand même une blackface dans le film, c'est quand même à la fin.
Oui.
Non, mais donc c'est aussi
les réalités. Ah bah oui, non mais, voilà. Mais autant aller jusqu'au bout des choses.
C'est
de toute
aussi
façon,
les
mais...
réalités de ce cinéma-là, quoi. Mais si vous faites le choix de le regarder avec un regard. De le regarder comme un spectateur regarderait, irait en salle aujourd'hui, forcément ça crée un décalage.
Ouais, mais c'est là où c'est intéressant de voir que parfois des œuvres, de toute façon, vieillissent et vieillissent mal, mais c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas intéressantes à regarder. Au contraire, c'est parce qu'on les remet dans un contexte, parce qu'on comprend d'où elles viennent, qu'on peut les apprécier, objectivement ou non. Alors juste valeur. Et ce film, je pense, en fait partie. C'est un vrai beau travail à faire, je pense, que de le voir, par exemple, pour justement conscientiser certaines choses, je trouve.
Merci beaucoup Charles. Le film ressort donc le 23 avril en Blu-ray et DVD chez Pathé. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés le temps de cette émission, Charles. C'était toujours très intéressant.
Merci Thomas.
Merci à la réalisation technique de cette émission au patron Enrico Mastro Giovanni. Et puis on se retrouve le mois prochain pour revenir sur d'autres films en support physique et en dématérialisé aussi. Salut à tous.
Salut.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.